On a souvent dit du Liban qu'il dansait sur un volcan.
Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God!
C'était donc bien le cas, au sens propre. Les explosions d'hier ont été filmées sous tous les angles. Toutes les coutures, même. Cette mariée des routines se souviendra longtemps de son film de mariage. Sa noce, sa vie, sa ville, soufflée. Elle repart sonner au bras de son époux, incrédule, comme tout le peuple libanais.
Moi, j'ai cru que c'était un tremblement de terre. Puis on s'est demandé si c'était un bombardement. C'était à n'y rien comprendre.
J'en ai vu des guerres. Celle de 2006 avait rasé la ville en 30 jours. Cette fois-ci, il a suffi d'une seule explosion pour arriver au même résultat. C'est une catastrophe. Je n'ai jamais rien vu de tel.
Au lendemain des deux explosions, les pièces du puzzle sont encore difficiles à rassembler. Le Liban, déjà englué dans une crise économique inédite et qui peine à contenir la crise du coronavirus, doit gérer une nouvelle urgence. Le gouverneur de Beyrouth ne savait pas quoi répondre aux journalistes hier.
Vous avez des infos ?
Non, aucune. Tout n'est que désolation.
Les médias libanais se font l'écho de stocks massifs de nitrate d'ammonium entreposés dans le port de Beyrouth. Comment de tels stocks ont-ils pu se trouver à proximité immédiate d'habitations ? Ces déflagrations sont vécues comme le coup de grâce par beaucoup de Libanais. Leur pays est-il en train de voler en éclats ? Ces explosions viennent-elles confirmer la déroute totale de l'État libanais ?
Voilà, et pour en
parler de ce drame, est-ce un accident ou bien un attentat, Rim Momtaz, que sait-on ce soir, à l'heure où nous parlons, des origines de cette catastrophe ?
C'est la question, n'est-ce pas ? Pour le moment, c'est très flou. Enfin, si on croit les autorités libanaises, c'est ce dépôt fameux de... c'est ce dépôt énorme de nitrate d'ammonium qui a été laissé comme ça dans ce port, on ne sait pas trop comment, sans les sécurités qu'il faut prendre, pendant 7 ans, 6 ans, et qui a pris feu, on ne sait pas comment, et qui a fini, abouti à cette explosion énorme. Évidemment, il y a eu, parce que c'est le Liban, tout de suite, il y a eu beaucoup de spéculations. Au début, on a pensé à un attentat, une attaque israélienne. Les officiels israéliens ont nié toute implication. Et les gens se posent encore la question de... qui et quoi est en cause ici.
Alors, vous en parliez à l'instant, on va voir ça avec vous, Benjamin. Justement, ce dépôt, c'est votre chiffre du jour.
Oui, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui sont donc à l'origine de cette explosion. Le gouvernement libanais pointe du doigt cette cargaison. Le souffle de l'explosion a été ressenti jusque sur l'île de Chypre, située à plus de 200 km. Et il faut savoir, à titre de comparaison, que c'est 9 fois plus que les 300 tonnes de nitrate d'ammonium qui avaient causé la catastrophe d'AZF. On s'en souvient, c'était le 21 septembre 2001, provoquant la mort de 31 personnes. Samir Aïta, on parlait justement de ce port et de cette cargaison. Mais qui est responsable de ce port? On dit que c'est le Hezbollah qui gère le port de Beyrouth. Est-ce que c'est le cas?
Dans la théorie des complots que mon ami mentionné tout à l'heure, il y avait le complot israélien, il y avait le complot du Hezbollah qui veut empêcher... les résultats du tribunal de Hariri à émettre vendredi. Mais tout simplement, le responsable, il y a une direction du port, il y a une administration qui gère ce port, qui est complètement corrompue. C'est une administration de l'État, c'est comme je vous dis, l'administration du Havre fait passer n'importe quoi. Or, c'est n'importe quoi. Alors, il y a effectivement plusieurs services de sécurité, entre guillemets, autour de ce port, le Hezbollah regarde ce qui passe par ce port, mais aussi les services secrets israéliens, américains, syriens et tout le monde. Le chargement en question est le résultat de la saisie d'un navire qui date depuis 2013, amené et stocké parce que le navire a été saisi, etc., avec des problèmes de justice et des personnes qui étaient à bord de ce navire et de je ne sais pas quoi. Donc on a dit, on va garder un instant ces 2700 tonnes. Et puis, ils sont restés. Et personne n'a songé dans un état de droit à dire il y a un risque pour la population parce que le port est au milieu de la ville. Et aujourd'hui, les journaux libanais publient une note faite par l'armée libanaise en 2017, donc il y a déjà 3 ans, au tribunal, je dirais, des affaires urgentes, demandant que il y ait une décision de justice qui soit faite pour aller amener ce chargement ailleurs que dans une zone habitée, rien n'a été fait. Donc c'est une défaillance de l'État. Oubliez toutes les théories du complot qui se manifestent. C'est une défaillance notoire de l'État.
Oui, c'est ça, Jean-Paul Chagnolleau. Défaillance de l'État. C'est vrai qu'on a parlé à un moment de la gestion du port. On a l'impression qu'on ne sait pas qui le gère. Ça semble improbable de penser qu'on ne sait pas qui gère le port, quand même.
Bah, quand on connaît un peu le Liban, c'est un pays qui a de formidables potentialités à tous égards. Et en même temps, pour résumer de manière un peu brutale, je dirais que c'est une société sans État. Si on parle d'une définition même simple d'un État, qu'est-ce que c'est ? C'est le monopole de la violence légitime, c'est la capacité à promouvoir des politiques publiques, c'est la capacité à défendre son sol, ses frontières, et il n'y a rien de tout ça. La notion d'intérêt général n'existe pas, parce que, en fait, on a vraiment une classe politique qui est elle-même fragmentée et en même temps assez unie dans ses intérêts complémentaires et contradictoires, qui fait que ce sont ces intérêts qui prédominent. Et on l'a bien vu encore tout récemment, il y a quelques semaines, sur des questions centrales qui étaient financières, une situation qui est épouvantable sur le plan économique. Il y a une paupérisation des classes moyennes et du Liban dans son ensemble. Et bien là, il y avait quand même le clan des banquiers, et c'est pas une lecture post-marxiste facile, c'est une réalité très concrète du clan des banquiers qui s'opposait à des réformes que d'autres Libanais souhaitaient, conformément à ce que voulait la communauté internationale, et ils s'y opposaient parce que ça allait à l'encontre de leurs intérêts. Alors la question, évidemment, qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que ce drame va mettre en face les responsabilités de chacun? Tout de même, on va dans quelque chose de tragique. Et alors, une réponse en deux secondes, l'espoir qu'il y ait quelque chose de ce genre, oui, mais d'une manière rationnelle, je dirais que non. Malheureusement, je crains fort que ça ne suffise pas pour que les uns et les autres prennent conscience des drames qu'ils provoquent par leur ineptie et leur incurie.
Oui, Benjamin.
Non. Juste, pardon, sur le port. C'est important, ce port, parce que c'est par là que transitent bien 80% des importations au Liban, parce que le Liban est sous perfusion économique du reste du monde, il ne produit que très peu. Donc c'est dire, c'est pas uniquement symbolique, c'est que c'est toute une partie du Liban qui est touchée économiquement, là.
Ah, c'est affreux. Mais laissez-moi dire juste par rapport au problème de tout à l'heure. Les Libanais, la masse de la population qui est choquée par les événements, sont encore plus choqués qu'il n'y a eu aucune arrestation ou mise en résidence surveillée du directeur du port, des responsables du... La moindre des choses, c'était de les saisir parce qu'un État normal dit qu'il y a une responsabilité. Alors peut-être on peut le dégager de sa responsabilité, mais il faut un responsable majeur. Le port de Beyrouth est un des ports les plus importants de la Méditerranée. On parle maintenant de faire marcher Tripoli. Tripoli a des capacités beaucoup moindres et mettra des années à atteindre celui de Beyrouth. J'ai oublié deux choses. Le port de Beyrouth, c'est le poumon du Liban, mais c'est aussi le poumon de la Syrie.
Ouais.
Aujourd'hui, toute l'aide aux un tiers de la population libanaise, c'est-à-dire du pays, sont des Syriens, réfugiés ou non réfugiés, ayant choisi de fuir la guerre et de rester au Liban. Vous avez toute l'aide des Nations Unies, des organisations internationales, etc., qui est distribuée à la majorité de la population qui réside dans les zones contrôlées par le gouvernement, ou le secteur privé syrien qui...